La clé, par Alfred Edward Woodley Mason. Assis sur un banc à l'ombre des palmiers nains d'Alicante, Matty Driver tournait et retournait dans sa poche sa dernière peseta. C'est un dicton banal que nul ne saurait mourir de faim en Espagne. Matty, pourtant, avait l'impression qu'à moins de pouvoir faire deux pesetas d'une seule et convertir ces deux elles-mêmes en quatre, il ne tarderait pas de se trouver en désaccord avec le dicton. Puis, ce matin-là était merveilleux. Et par un matin semblable, le sentiment de sa gêne lui pesait comme une injure faite à son sybaritisme. Le soleil pétillait sur le saphir de la Méditerranée, le pavé flamboyait d'or. Sous les palmiers, l'ombre était plaisante et fraîche. Du côté de la terre, sur la droite de l'avenue, un grand club et d'excellents restaurants prodiguaient leurs invitations. Que Matty eût trouvé agréable d'y aller déjeuner. Il n'aurait plus ensuite qu'à aider le soleil dans sa course, en bavardant avec l'un et l'autre des événements tumultueux, désastreux, qu'il avait chassés du Maroc et rejetés comme un paquet d'algues sur la plage d'Alicante. Hélas, il ne gardait en poche qu'une peseta. Et il avait beau la retourner entre ses doigts, ce n'était pas le moyen d'en faire deux. Mais un tout autre miracle allait se produire. Derrière son dos, une voix parla. « Hombre !» Matty reconnut la voix, et son cœur fit un saut. Après tout, il avait 23 ans et tout l'appétit que donne la belle santé de son âge. Mais il n'osait entamer son unique peseta. Il se retourna sans hâte. « Señor Fontana, » dit-il d'un ton aisé, « vos occupations sont terminées. » Fontana était un homme entre deux jeunesses, tout rasé, qui portait un pantalon de flanelle rayée, jadis propre, et des souliers de toile plus ou moins blancs, à bout de cuir verni. Tirant d'un geste arrondi son chapeau de paille, il s'assit près de Matty. « Oui, pour l'instant, c'est l'heure du déjeuner. » Fontana offrait le type de ces individus si singulièrement indéfinissables que l'on rencontre dans les ports espagnols, moitié marins et fonctionnaires, moitié courtier maritime, négociant, spéculateur, sorte d'agent louche pour tout ce qui concerne les affaires de mer. Matty l'avait remarqué le matin même, sitôt débarqué à Alicante du petit bateau d'Almeria. Et la connaissance qu'il avait du monde, jointe à une facilité toute espagnole d'engager, avec le premier étranger venu, la conversation la plus intime, l'avait induit à s'ouvrir immédiatement de sa détresse en se proposant à Fontana pour n'importe quelle besogne. La réponse n'était pas longue à venir. « Señor Driver, » dit Fontana, « j'ai un ami qui apprécierait vos services. Il vous invite à déjeuner pour causer librement avec vous d'une petite affaire. » Matty Driver regarda vers le club. « Non, pas là, » reprit Fontana, « ni à la reine Victoria. Vous n'y seriez pas tranquille. L'affaire en question n'a, il est vrai, que peu d'importance, mais elle est curieuse. Vous montrerai-je le chemin ?» Entre les palmiers, par-delà le yacht club, il gagna, Matty le suivant, un coin où débouchait sur l'esplanade une route venant de la ville. Un petit restaurant s'y blottissait dans un jardin. Ici l'on mange de bonne cuisine. Et Matty commença de penser que la petite affaire était certainement curieuse, mais pas aussi dénuée d'importance que le prétendait son aimable ami. Au surplus, en ce pays, l'amabilité de Fontana n'était pas pour le surprendre. N'importe quel Espagnol se détournera de son chemin pour obliger un étranger, à la condition qu'il ne lui en coûte pas un centime. Mais comme il quittait l'avenue pour entrer dans le jardin du restaurant, Fontana posa une main sous le bras de Matty, et du haut en bas, ses yeux explorèrent vivement la route. « Pas de doute qu'il ne soit arrivé, » dit-il. Matty, pourtant, ne fut pas dupe. L'inquiétude de ce regard promené à droite et à gauche, la brusquerie de cette main posée sur son bras, puis aussitôt retirée, manifestait à l'évidence la crainte qu'on ne les observât. Il avait le goût naturel de l'aventure, et si sa pauvreté ne lui eût été un motif suffisant de se laisser convaincre, il en eût trouvé un autre dans cette crainte de Fontana. Son émotion ne fit que croître lorsque, dans un renfoncement du jardin, il se vit face à face avec un vieux petit monsieur, mince, scrupuleusement habillé, qui portait une barbiche en pointe rehaussée d'une moustache blanche et qui l'inspectait d'un œil d'acier. « Permettez-moi de vous présenter l'un à l'autre, » dit Fontana, toute bonne grâce et sourire. « Mon ami le seigneur Juan Gomez, négociant de Cordoue. » « Retiré des affaires, » compléta Gomez. « Situation enviable ? conclut Matty Driver, sans marquer la moindre incrédulité à l'égard de ce qu'avait dit Fontana. « Moins agréable, répliqua le seigneur Gomez, que d'avoir encore la jeunesse. » Sur cet échange de congratulations, Fontana prit congé. « Vous allez, j'espère, me faire l'honneur de déjeuner avec moi, » dit à Matty le vieux petit homme. Malgré la tentation puissante qu'exerçaient sur lui les hors-d'œuvre, olives noires, sardines et radis, bien présentées dans deux petites assiettes blanches, sur une nappe d'une blancheur de neige, Matty éprouvait en s'attablant un très vif malaise. Sa mise était sans reproche. Il tenait pour un principe de philosophie élémentaire que la partie est perdue dès que le vêtement perd son crédit. Mais que jusque-là, il n'y a pas un coin d'où ne vous guette une espérance. Aussi avait-il eu grand soin de soustraire le meilleur de sa garde-robe à l'holocauste de ses biens. Et son complet bleu voisinait sans indignité avec celui du seigneur Gomez. Mais ce qui faisait passer tout le long de ses nerfs des frissons avertisseurs, c'était la personnalité de son hôte. Juan Gomez s'abstint d'aborder avant la fin du déjeuner l'objet de leur rencontre. Il ne fut qu'un homme bien élevé qui traite un invité. Il parla, non sans bonheur, des grandes villes où l'avaient conduit ses affaires. « Il va de soi, dit Matty Driver, que vous connaissez Cordoue comme la paume de votre main. J'y ai vécu tant d'années, » répondit le négociant avec un haussement d'épaule. « C'est sans doute pour cela qu'il ne m'est pas venu à l'esprit de vous en mentionner les merveilles. Vous aussi, vous connaissez Cordoue ? Non ?» Le seigneur Gomez se mit à discourir sur Cordoue jusqu'à l'instant du café. Quand il vit Matty installé devant un verre de Fundador et fumant un gros cigare, soudain il changea de propos et de ton. Il ne baissa pas la voix tant le jardin leur appartenait. Il entra de plein pied dans son sujet, comme soulagé d'en avoir fini avec d'oiseux préliminaires. J'ai su par Fontana, seigneur Driver, que des revers de fortune, comme il nous en peut arriver à tous, vous mettent dans l'embarras. Oui, j'étais l'ami de Raisuli. Sa défaite a causé ma ruine. Matty était né sur la côte atlantique du Maroc, à Larache, où ses parents, d'origine anglaise, étaient depuis longtemps établis. Il n'était jamais allé en Angleterre, quoiqu'il fût venu maintes fois en Espagne. Sous bien des rapports, il tenait du mort plus que de l'anglais. Il avait, du mort, la ruse et la bonne humeur. Et quand à l'âge de 17 ans, il était demeuré sans parents, presque sans argent, il connaissait le monde et ses ressources. Il alla se fixer à Alcazar, où, devenu l'agent de Raisuli, il se rendit acquéreur de troupeaux dont les chefs de Raisuli avaient la garde. Et il marchait à la fortune lorsque Abdelkrim, descendu des montagnes du Rif, non seulement culbuta Raisuli, mais s'empara de sa personne et de ses biens. Du jour au lendemain, Matty se trouva réduit, peu s'en faut, à l'indigence. Quelques semaines de vains efforts pour reconstituer ses affaires sous la réglementation rigide des Espagnols consumèrent le peu d'argent qui lui restait. Il passa vivement en Espagne, se rendait d'Algésiras à Malaga, de Malaga à Almeria, d'Almeria à Alicante, cherchant partout l'occasion à saisir. Et c'est ainsi qu'il en était arrivé à sa dernière peseta. Le négociant de Cordoue l'écouta dans le plus grand silence, narrer jusqu'au bout son histoire. Alors, avançant le corps, il dit avec un sourire « Le romanesque vit donc toujours, bien que nous n'en voyons guère la couleur, nous autres pauvres et tristes sédentaires. Combien il est facile de gagner une fortune. Et combien plus facile de la perdre, » répliqua Matty d'un ton lugubre. « Là où vous avez réussi une fois, vous pouvez réussir encore. Songez à la promptitude de votre premier succès. » La voix de Gomez se fit onctueuse. « Vous deviez avoir des procédés, comment dire, un peu libres ?»« En fait de procédés, je n'en ai jamais eu qu'un. Tenir parole à la minute et dans le moindre détail. »« Claro !» approuva Gomez. « C'est ainsi que je l'entends. Par exemple, quand vous teniez parole au sieur B, grand propriétaire, le sieur X, commerçant juif, devait peut-être en pâtir. » Matty réfléchit. « Oui, confessa-t-il enfin. Mais je crois ne m'être jamais laissé troubler par la malchance des sieurs X. » Gomez sourit de nouveau, étalant une rangée de solides dents blanches qu'aurait envie un jeune homme. « On ne peut se permettre ce luxe. Si je vous ai posé la question, c'est que dans la petite affaire que je vais vous soumettre, je me propose d'être le sieur B, et non pas le sieur X. » Matty s'inclina. « Nous nous comprenons, naturellement. À la bonne heure !» et Gomez dispersa d'une chiquenaude la cendre de son cigare. « Je vais, reprit-il, vous demander de retourner au Maroc, mais dans une région qui vous soit moins malsaine. Connaîtriez-vous par hasard la casbah de Taouirt ?» Mati fit un léger sursaut. « Dans les montagnes de l'Atlas, oui, je la connais. En ce cas, peut-être connaissez-vous le caïd de Taouirt lui-même ? Je le connais. » Juan Gomez eut un rire, un curieux petit rire saccadé. « Le hasard me sert, mon jeune ami. Je n'aurais pas espéré une aussi bonne chance. » Mais de son côté, Mati avait froncé le sourcil. « Un moment, Seigneur Gomez, » dit-il d'un ton brusque. « Je ne suis pas sûr que votre chance soit si bonne. » Car j'imagine que dans vos projets, le caïd de Taouirt doit jouer le rôle de notre Surix. Je n'affirmerai pas le contraire, répondit Gomez simplement. Mathis se sentait divisé. Certes, dans la pratique des affaires, il ne se laissait guère troubler, comme il l'avait dit, par de menus scrupules. Mais, en tout état de cause, il aimait les morts plus que les Espagnols, et infiniment mieux le caïd de Taouirt que ce méchant fripon de Cordoue. Il se représentait comme un grand baron des anciens jours, posté en sentinelle sur les marches, le fier gentilhomme qui, dans sa casbah, crénelé et flanqué de tours, montait la garde sur les hauts défilés de l'Atlas. Mais il n'avait en poche qu'une peseta, et qui refusait de se changer en deux. « Que désirez-vous de moi ? » demanda-t-il d'un air sombre. Gomez lui tapa sur l'épaule. « Oh, rien de sérieux, mon jeune ami. Aucun mal ne sera fait à personne, pas même au Surix. « Écoutez-moi. Il y a dans la casbah de Taouirt une clé, une grande clé, au paneton très compliqué. Autant que je peux croire, elle est pendue un clou dans le patio. » Mathilde leva la tête. « Et on la garde comme un trésor. Il est certain qu'on ne vous l'offrira pas. De sorte que j'aurai à la voler. Disons que vous n'aurez pas à la demander. Or, cette clé, j'en ai besoin. Pourquoi ?» Juan Gomez leva les bras au ciel et sur un ton amusé, « Voyons, mon jeune ami, voyons. Si j'étais le moins du monde disposé à fournir des explications, je n'irais pas chercher pour m'aider un étranger réduit à sa dernière peseta. Et je n'offrirais pas pour ce petit service le prix que j'y veux mettre. » Mati releva la tête. « Quel prix ? 20 000 pesetas. 5 000 tout de suite pour les frais, 15 000 à la remise de la clé. » Assurément, s'il ne devait s'agir que d'une petite infamie, la somme était honorable. Mais Mati avait la très ferme conviction que l'infamie devait être énorme. Et non seulement énorme, mais extrêmement subtile et peu commune. Il savait beaucoup plus de choses que ne le présumait le négociant de Cordoue, ce qui ne l'empêchait pas de se sentir, en l'espèce, comme un enfant perdu dans les ténèbres. Il contemplait le seigneur Gomez avec respect, non sans se dire, en son fort intérieur, qu'il s'engageait peut-être avec lui dans une danse qui exigerait bien de la souplesse. Gomez tira de sa poche un portefeuille, d'où il aligna sur la table 4 billets de 1 000 pesetas et 10 de 500. « Le sieur B tient sa parole, » dit-il en riant. Et il poussa les billets par-dessus la table. Mati n'y put résister. « Il faut que j'aille d'ici à Casablanca, de Casablanca à Marrakech, de Marrakech dans l'Atlas. Quelques semaines s'écouleront avant que je vous apporte le tribut du sieur X. Comment vous trouverai-je à ce moment ?» Vous annoncerez votre arrivée à Fontana, dit Gomez. Il régla l'addition, commanda pour Mati Driver un autre fundador et se leva. Veuillez, s'il vous plaît, ne pas bouger d'ici avant 10 minutes. Et sa voix avait un son d'autorité comme s'il eût parlé à un domestique. Mati ne s'en formalisa pas. Tout son corps lui faisait l'effet d'une maison où retentiraient des sonnettes d'alarme. Il ne mit pas moins de 10 minutes à concevoir qu'il fumait un très bon cigare dans un très joli jardin, et que juin, à Alicante, était ce qu'il y avait de plus divinement chantant sur la terre. Il avait accepté le pain et le sel du négociant de Cordoue. Il avait accepté son argent. Dès le lendemain matin, il passa par avion d'Alicante à Casablanca, et 8 jours plus tard, il gravissait avec son petit train de mule les pentes qui mènent à la casbah du caïd de Taouirt. Le caïd se porta au-devant de lui sur une mule blanche à haute selle rouge et de loin, l'accueillit par un cri de bienvenue. « Mati !» Une grande cour précédait le patio où Mati fut introduit. Des colonnes peintes et ornementées y soutenaient des toits de tuiles. Une fontaine y jouait dans un bassin de marbre. « Je vous ai vu venir avec les verres que vous m'aviez donnés, » fit le vieux chef, à qui Mati, en des temps plus prospères, avait offert une jumelle rosse. « Parlez, en quoi puis-je vous servir ?»« J'étais à Marrakech, » répondit Mathis. « Mes affaires me laissaient quelques jours de loisirs. J'ai tenu à vous revoir. » Les yeux du caïd s'étrécirent un peu et son visage devint un masque. Mais il ne posa pas d'autres questions et s'occupa des apprêts du thé. 4 ans avaient passé depuis l'avenue de Mathis sur ces hauteurs désertes. Le caïd parla des Français, des relations amicales qu'il entretenait avec eux. Cependant, Mathis promenait de tous côtés son regard. Il n'eut pas de peine à découvrir, pendu à un clou contre une colonne et comme exposé à la vue, une grande clé reluisante qu'on eût pu croire d'argent. « Vous resterez chez moi une semaine. Je donne une chasse dans 3 jours. Peut-être lèverons-nous un mouflon. » Mathis hocha la tête. « Sid Mohamed El Hadi, je dois repartir pour Marrakech au matin du 3e jour. Il en sera comme vous voudrez. Jusque-là, ma maison est la vôtre, Mathis, avec tout ce qu'elle renferme. » Mathis dormit dans une chambre d'honneur, dont une fenêtre ouvrait sur le sud et une porte sur un balcon dominant le patio. À 1 heure du matin, la 2e nuit de sa visite, il se glissa dans le patio tandis que la casbah tout entière reposait. Par l'intervalle des toits, le clair de lune baignait les tuiles. Même sous l'avancée du balcon, la grande clé brillait comme un joyau contre la colonne. Mathis levait la main pour la prendre quand une lumière jaillit derrière lui. Il se tourna, rapide et silencieux. Une lampe électrique l'éclaira de pied en cap sans rien révéler de l'homme qui la tenait. Elle s'éteignit et du seuil d'une alcôve, très doucement, la voix du caïd trouva l'ombre. « Vous aussi, Mathis. Je vous ai dit que ma maison était la vôtre, avec tout ce qu'elle renferme. Alors, pourquoi descendre l'escalier avec tant de mystère, au milieu de la nuit, comme un voleur ?» Mathis, confondu de honte, restait cloué sur place. Le caïd alluma les bougies d'un haut candélabre posé par terre dans l'alcôve. « Ah !» dit enfin Mathis lentement. « Je n'aurais pas voulu pour tout au monde que ceci arrivât. » « Et pourtant c'est arrivé, » lui répondit Sid Mohamed El Hadi. « Causons. » Le caïd s'assit, les jambes croisées, et fit signe à Mathis de s'asseoir tout proche. Mais Mathis resta debout devant son hôte. « Vous aussi, » fit-il, répétant le mot du caïd. « Ce qui veut dire que d'autres m'ont précédé. Un autre. Il vint l'an dernier à cette même époque. C'était un étranger. Il prétendait se rendre au Tafilalet. Il passa ici une nuit. Au matin, la clé s'en était allée. Je fis poursuivre l'étranger, non pas en avant, sur la route du Tafilalet, mais en arrière, sur celle de Marrakech. On en trouva ma clé dans son bagage. On me le ramena. Il était, paraît-il, très pauvre. On lui avait offert une grosse somme d'argent en échange de ma clé. Je le laissai repartir. Le vieux caïd s'arrêta et, de réchef, fit signe à Mathis de s'asseoir à son côté. Cette fois, Mathis obéit. « Donc, vous aussi, Mathis, vous êtes maintenant très pauvre ?» Mathis courba la tête et, sur le ton de la plus grande confusion, avoua l'extrémité où il s'était vu réduit. Les retours de la fortune n'ont pas de surprise pour un mort qui sait qu'on peut être un jour Premier ministre et mendiant aveugle le lendemain. « Alors, vous aussi, vous désirez ma clé, Mathis ?» Sans attendre une réponse, le caïd traversa le patio inondé de lune, dépendit la clé, la porta dans l'alcôve et la balança entre ses doigts. La lumière des bougies, ondulant sur la tige et sur les arêtes du paneton, en faisait une chose vivante. « Pas un soupçon de rouille, pas une paille dans le métal, » continua le vieillard. « Et pourtant elle prend à cette colonne depuis 350 ans. Nous l'appelons la clé du paradis, car elle ouvre la porte de ma maison d'Espagne. » C'était bien la déclaration qu'attendait Mathis. Il savait qu'un peu partout, en pays marocain, à Rabat comme dans l'Atlas, à Fès comme à Marrakech, des clés semblables pendaient à un mur dans les maisons des nobles. Quand jadis Ferdinand et Isabelle les avaient chassés d'Espagne, les seigneurs morts avaient tous emporté la clé d'entrée de leur maison en prévision du jour victorieux où ils auraient à la remettre dans la serrure. Cette fois, des ancêtres survivaient encore chez les arrière-petits-fils. « Qui sait si moi-même ?» continua le caïd. Mais il s'interrompit dans un rire. « En ce cas, il faudrait que la chose se produisît vite, Mathis, très vite. » Et il s'absorba comme au spectacle d'un objet infiniment précieux. « Où est-elle, Sidi Mohamed El Hadi, cette maison que vous avez en Espagne ? À Elche ?» Mathis pousse un profond soupir. « Oui, pensait-il, c'est une vilenie plus grave que je ne l'imaginais, mais je n'arrive pas à comprendre. » j'ai peur. » Et tout haut, il dit « Elche, c'est bien cette vieille ville mauresque, au dattier fameux, située à 20 kilomètres environ d'Alicante. »«
Justement, » répondit le caïd,
« ma maison est dans un grand jardin au bord de la rivière. Je ne l'ai jamais vue. » »«
Et qui l'occupe aujourd'hui ?»«
Le comte Torrevieja. »
Mathis se dressa d'un bond.
« J'en étais sûr.
Écoutez-moi, Cid Mohamed.
Un homme qui se donne pour un nommé Juan Gomez, négociant de Cordoue, m'a chargé, à prix d'argent, de voler votre clé. Cet homme, je le connaissais, mais pas sous son nom d'emprunt, par un portrait qu'en avait publié le journal El Liberal. Je devinais en lui un méchant petit gredin à barbe blanche, souple comme l'acier. Je n'arrivais pas à me souvenir de son nom. C'était le comte de Torrevieja. Il regarda d'un air perplexe la flamme des bougies. Or, voilà que cet homme veut la clé de la maison où il habite l'été, la seconde clé, celle que l'on garde dans cette forteresse de vos montagnes. Pourquoi ? Et il la veut secrètement, si secrètement qu'il envoie deux hommes tour à tour pour la voler. Qu'est-ce que cela veut dire ?
À vous de le découvrir, Mati, répondit lentement le caïd. Je vais vous prêter ma clé. Je ne vous demande que de me la rapporter aussi nette, aussi reluisante.
Il parlait un langage de parabole que Mati saisissait fort bien, et il tenait sa clé entre les deux mains afin que Mati n'eût qu'à la prendre. Mais Mati entendait plus que jamais retentir en lui des sonnettes d'alarme. Il voyait le caïd assis dans sa robe blanche, immobile autant qu'une statue. Il voyait la clé reluire, les bougies brûler régulièrement à ses pieds dans les branches d'argent du candélabre. Il avait le sentiment de la solitude qui enveloppait cette forteresse montagnarde et cette cour aux sombres piliers. Et tout cela, pour lui, n'était pas plus consistant qu'une vision de rêve à travers laquelle il eût discerné, comme derrière un voile, une terrifiante et monstrueuse énigme. Enfin, il prit la clé. Puis il s'en revint à Alicante, mais plus discrètement qu'il n'y était allé la première fois, par bateau et chemin de fer. Il s'y glissa discrètement un matin et se logea dans un hôtel. Il était d'une semaine en avance. Il possédait 1500 pesetas économisées sur ses frais, et il n'éprouvait point l'irrésistible désir de revoir Fontana. Sa mauvaise chance voulut que le soir même, comme il faisait les 100 pas devant le club en écoutant l'orchestre, Fontana, venu par derrière, le frôla au passage et, sans le regarder, lui murmura « Suivez-moi ». Il obéit à contre-cœur. Sur le côté noir d'un square, en face de l'esplanade, loin des lumières et de la musique, Fontana s'arrêta et l'attendit. « Vous n'avez pas flâné en route, mon ami, » dit-il quand Mathilde le rejoint. « Et vous avez réussi, j'espère ?»«
Oui. »
Fontana le tapa dans le dos.
Bien entendu, j'ai appris votre retour dès ce matin.
Il devançait de 8 jours nos prévisions, et cela m'inquiétait un peu. C'est plaisir, quand on offre ses bons offices, de s'en voir ainsi justifié. Vous vous féliciterez d'en avoir fini avec cette affaire et de recevoir votre récompense. Vous la recevrez cette nuit. Fontana était le bon vouloir et la jovialité même, mais il ne laissait pas à Mathilde le temps de se reconnaître. Il se hâta de lui donner ses instructions. Il n'ignorait pas que Mathilde eût été chargé d'aller quelque part prendre quelque chose.
Quoi ?
Il ne le lui demandait pas, n'étant pas, Dieu merci, curieux de sa nature. Ce qu'il lui demandait aujourd'hui, comme le jour de leur première rencontre, c'était de rendre service à un homme désemparé. L'important était que Mathilde se fût procuré ce qu'on l'avait chargé de se procurer. L'excellent Juan Gomez criait d'en prendre possession, et il attendait Mathilde, à cette minute même, dans sa maison d'Elche. Oh, un tout petit voyage, rien qu'un saut de 20 kilomètres, 1 heure d'auto, et il n'était pas encore 11 heures.
Mais, commença Mathilde, il faut d'abord que j'aille à mon hôtel pour y prendre.
Oui, oui, ce que vous avez à y prendre, nous nous entendons, interrompit Fontana, et voyez comme tout s'arrange. Tandis que vous irez prendre ce que vous avez à prendre, je vais, moi, m'occuper de retenir une auto et de vous l'envoyer ici, dans ce square paisible. À 1 heure, vous aurez regagné votre hôtel, et demain, votre mission accomplie, vous repartirez dans la vie en capitaliste, bravo !» Fontana pressa d'une main chaleureuse la main de Mathilde, le regarda comme avec ravissement et ajouta « Mieux vaudra que l'auto ne pousse pas jusqu'à la maison de Juan Gomez. Le vieux renard, vous vous en doutez, ne recherche pas la grande lumière. » Et riant tout bas, Fontana fourgonnait du poing dans les côtes de Mathilde. « Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître la maison. » Il fit de cette maison d'Elche la même description qu'elle avait déjà été faite à Mathilde dans le château fort de l'Atlas.
mais alors les détails lui en étaient fournis d'après une connaissance traditionnelle et avec une passion nostalgique, au lieu qu'aujourd'hui on ne les lui donnait que pour le conduire tout droit à son but.
« À l'heure où j'arriverai, comme elle sera couchée, » représenta Matty.
Fontana, d'un air malicieux, allongea son index contre son nez. « Il vous attendra. Je le téléphonais sitôt que j'ai su votre retour. » Sur ce, plantant la Matty et ses résistances, Fontana traversa le square pour disparaître au débouché d'une étroite rue.
Matty n'avait qu'une envie, courir à son hôtel et s'y enfouir la tête sous les couvertures.
Mais 15 000 pesetas sont 15 000 pesetas. Qui plus est, ses idées essentielles sur la justice et la loi avaient pour fondement le système mort. Il ne voyait pas pourquoi, s'il manquait à ses obligations envers Gomez, Gomez ne le ferait pas emprisonner en achetant la complaisance du gouverneur. Il revint à son hôtel prendre la clé. Il tiendrait parole au sieur B, mais il entendait la tenir en même temps au sieur X. Il fallait que la clé fût rendue, nette et reluisante, au caïd de Taouguirt. Il ne devait pas être l'instrument d'un crime, ni servir des projets malhonnêtes.
11 h 30 sonnait quand Matty se retrouva dans le square.
Pas une fenêtre éclairée, pas un passant sur la chaussée.
Mais à l'endroit où il s'était entretenu avec Fontana, une auto projetait la double lumière de ses phares.
« C'est moi que vous attendez ?» demanda-t-il au chauffeur. « Vous savez où me porter ?»«
À Elche, » répondit l'homme.
Matty s'installa dans la voiture. Elle roula parallèlement à la côte jusqu'au niveau des salines. Là, comme elle venait d'obliquer dans la direction de l'intérieur, le moteur eut une panne. Debout sur un tas de cailloux au bord de la route, Matty regardait scintiller dans la nuit d'été les pyramides de sel, en espérant que le chauffeur n'aurait pas trop de peine à réparer le dommage. Au bout de 20 minutes, la voiture était prête à repartir, et elle acheva son trajet d'une allure si souple que Matty en vint à suspecter la réalité de la panne. N'avait-elle été qu'un artifice pour l'empêcher d'arriver à la maison avant une certaine heure très précisément fixée? Il était en humeur de s'en revenir à tout prix quand, parvenu aux abords du village, l'auto vira sur la gauche et stoppa à l'entrée d'un petit chemin qui descendait vers la rivière.
« Nous y voilà, » dit le chauffeur.
« Vous voudrez bien m'attendre ?» dit Matty Driver.
« Parfaitement. »
Les phares s'éteignirent à l'instant où Matty atteignait le petit chemin. Il avait à peine fait 100 mètres qu'il arrivait à la maison, masse imposante et digne d'un palais, en bordure de la rive. Sur le côté descendant vers l'eau, des palmiers d'un très grand âge dépassaient les hautes murailles d'un jardin. Il n'y avait de lumière à aucune des fenêtres. Nul bruit ne s'échappait d'aucune chambre. Les pas de Matty s'enfoncèrent sourdement dans un tapis de sable. Il aurait pu se croire devant une demeure abandonnée, oubliée, en pleine solitude, et pourtant, au fond de ses appartements, le fâcheux comte de Torrevieja l'attendait, une main allongée pour recevoir la clé, l'autre posée sur une pile de billets de banque.
« Ma foi, » dit Matty, « autant vous en finir tout de suite. »
Ayant pris la clé dans sa poche, la tenant de la main droite, il se mit de la gauche à chercher le trou de la serrure. La porte était d'un noyer très massif, renforcé de verrous et de barres, et montée sur des gonds qui eussent défié les coups d'un bélier. Cependant, à peine Matty l'avait-il touchée, qu'elle s'ouvrit doucement, silencieusement. Un enfant l'eut ouverte sans effort, et elle s'ouvrit sur des noirceurs de caverne.
Matty recula suffoqué.
Il avait maintenant tout à fait peur. Pourquoi une obscurité pareille dans cette maison où on l'attendait? Quel toit lourdissait à son intention cette vieille araignée de Torrevieja? Qu'avait-il, lui, Matty, à persévérer dans une entreprise aussi suspecte? Ah, sur ce dernier point, il pouvait lui-même se répondre. 15 000 pesetas! Il franchit précautionneusement le seuil, et comprenant que sur le fond clair de la nuit, il pouvait être visible pour qu'il épirait du vestibule, il repoussa la porte derrière lui. Puis il attendit et il écouta. La maison était muette comme une tombe. Enfin il vit, au loin, trancher sur l'ombre une faible lueur verticale, comme si, à l'autre bout d'un grand hall, se trouvait une porte légèrement entrebâillée. Mais quand devait-il conclure? Que ses yeux s'habituaient aux ténèbres ou qu'on venait d'entrebâiller la porte? Il s'avança d'un pas circonspect. Il pensait être dans un patio de jadis, couvert d'un toit à une époque plus récente. Et il tendait les bras, par crainte de se cogner au pilier. Il en toucha un, puis un autre, puis il atteignit l'angle où était la porte. Elle s'ouvrait en dedans, au coin d'une chambre. La fente lumineuse était si mince qu'elle révélait tout juste une bande de panneaux murales. Il allongea le cou et prêta l'oreille, sans entendre un souffle. La chambre éclairée paraissait aussi vide que le hall. Matty poussa légèrement la porte. Elle céda, mais avec un tout petit grincement de gonds qui lui souleva le cœur. Néanmoins, pas un cri, pas une question ne furent proférées. Pas un bruit ne trahit un mouvement inquiétant. Donc, la chambre était vide. Il poussa la porte toute grande, en observant du coin de l'œil si le battant ne cachait personne. Mais autant qu'il put voir, c'était le vide partout. La pièce était une chambre à coucher, avec un lit à colonnes, dont les courtines étaient closes, comme s'il y avait là quelqu'un qui dormit ou qui se tint aux aguets en s'empêchant de respirer. Les yeux de Matty, promenés au hasard, tombèrent sur une psyché dressée en face de lui dans un repli du mur et s'y fixèrent. Il frissonna. Il eut la sensation que tout le froid du monde lui coulait dans les moelles et que ses cheveux se dressaient sur sa tête. Il se voyait lui-même, et derrière lui, à gauche de la porte, il voyait une table de toilette sur laquelle brûlait l'unique bougie dont s'éclairait la chambre. Dans les profondeurs de la glace, cette bougie rayonnait comme une étoile, et son pâle reflet courait sur une jonchée d'écrins brisés, de joyaux mis en pièces. Ici, une chaîne d'or qu'on avait tordue pour en arracher le pendentif. Là, une monture d'or qu'on avait brutalement dégarnie de ses pierres. Évidemment, il y avait eu cette nuit un cambriolage dans la maison. C'est pourquoi il avait trouvé la porte entrouverte. Le malfaiteur avait fui par là. Et puis, qu'y avait-il derrière les courtines du lit? Attiré par ce lit comme une aiguille par un aimant, Matty écarta l'un des rideaux, le laissa tomber et demeura là, immobile, hors d'haleine. Il y avait dans ce lit quelqu'un qui dormait. Qui dormait, sans doute. Pourtant, Matty regarda vers la table de toilette. Toute cette violence, toute cette destruction avait dû s'accompagner de bruit. Matty écarta de nouveau le rideau. Les draps étaient relevés jusque par-dessus la tête du dormeur, et il ne les voyait pas bouger, monter, redescendre, comme ils auraient dû le faire, si faiblement que le dormeur eût respiré. Quelle que fût la personne étendue dans ce lit, elle était morte. Matty s'approcha du chevet, ses yeux, pour la seconde fois, rencontrèrent la glace, et dans la glace, une autre paire d'yeux. Le comte de Torrevieja, naguère Juan Gomez, négociant de Cordoue, se tenait sur le pas de la porte, les yeux brillants et acérés comme ceux d'un oiseau, un sourire de satisfaction sur les lèvres, une épée nue à la main. Il vit Matty se retourner et jeta de grands cris. « Au meurtre! À l'aide! Romero! Felipe !» Tout en criant, il s'élançait sur Matty. Matty n'avait pas d'armes. Mais à l'instant où l'épée se pointait contre lui, arrachant une des courtines, il l'enroula autour de la lame. Déjà une clameur s'élevait à l'étage supérieur, jointe à une galopade de pieds sur le parquet. Avant que Torrevieja n'eût pu dégager son épée, Matty avait fouillé dans sa poche, il en avait sorti la lourde clé, et par deux fois, il en frappa Torrevieja sur le crâne. Au second coup, l'Espagnol s'effondra. Matty bondit par-dessus le corps de son adversaire. Comme il retraversait le hall, l'escalier s'illumina d'une lueur de flambeau. Il franchit le hall au pas de course. Il ne craignait plus cette fois de se heurter au pilier. Il atteignit la porte. Elle se rouvrit sans bruit. En un rien de temps, il fut dehors. Il ramena la porte sur lui au moment où le hall s'emplissait de piétinements sonores. Les serviteurs allaient se précipiter dans la chambre. Cela lui donnait une minute de répit. Plus même qu'une minute, peut-être. Oui, certainement, plus qu'une minute, car ils attendraient que leur maître eût repris ses sens et fût en état de leur donner des ordres. Matty mit la clé dans la serrure et referma la porte. Puis il retira la clé et partit en courant. La maison gardait toujours son calme. Enfin, des cris, suivis de hurlements, s'élevèrent des fenêtres, comme si l'énorme bâtisse eût été en flammes. Matty arriva au bout du petit chemin. L'auto avait disparu. Dans peu d'instants, la porte allait se rouvrir. Les gens de Torrevieja se répandraient dans le pays. Le district entier se lancerait à la poursuite de l'aventurier qui, après avoir volé chez le caïd de Taouguir au Maroc la clé du palais de Torrevieja à Elche, était passé en Espagne pour y commettre le vol et le meurtre. Et Matty, de courir, de courir. Plusieurs mois après, un homme au visage égaré, tout noir de barbe, se traînait jusqu'à la casbah de Taougirt. Admis en présence du caïd, il tira de sous ses haillons une clé reluisante.
Elle a pourtant, dit-il, un point de rouille.
C'est la tache qui a laissé le sang d'un gredin, du pire gredin que j'ai jamais vu. Plût à Dieu que je l'eusse frappé à mort.
Racontez-moi cela,
dit le caïd en rependant la clé à sa place contre la colonne.
Mati raconta son histoire, après quoi il produisit une coupure d'un journal espagnol.
Il est aujourd'hui avéré que l'assassinat de la comtesse de Torrevieja et la tentative de vol qui l'a suivie doivent être rangés au nombre des problèmes criminels apparemment insolubles. On suppose que l'assassin se sera caché dans la maison durant le jour, mais la police n'a aucun indice qui permette de le retrouver. Et le fait qu'il n'ait pas eu le temps de s'approprier les bijoux de la comtesse rend dès à présent sa recherche presque impossible. Le comte de Torrevieja, accablé de chagrin, se propose de voyager pendant un an. Bien entendu, il rit de la fortune considérable que lui laisse son épouse, argentine de naissance. Ayant lu à Sid Mohamed cet extrait de journal, Mati reprit
« Naturellement, Torrevieja pensait me tuer à coup d'épée.
Je n'aurais pas eu un sort meilleur si j'étais tombé aux mains de ces hommes. Qui, en effet, eût daigné ajouter foi à mon histoire ?»
Fontana l'eût démenti, soyez-en sûr.
De même le chauffeur de l'auto, si l'on était parvenu à le retrouver. On m'avait surpris dans la chambre, ayant en poche la clé de la maison et dans un sac les bijoux de la comtesse, alors que la comtesse gisait morte, assassinée dans son lit. Mais puisque me voilà loin, le comte n'aura eu garde de mentionner la clé. Il a tout ce qu'il désire. Recherché, découvert, mis en jugement, je ne me tirerai certes pas d'affaire. Mais par-ci, par-là, les ennemis du comte jaseraient peut-être. Il en rejaillirait quelque discrédit sur mon nom.
Ah, quand je le frappais avec votre clé, que n'y ai-je mis plus de vigueur et d'insistance ?
Le caïd regarda la clé.
Mati, dit-il, nous sommes tous dans les mains de Dieu.
Ainsi s'achève La clé, par Alfred Edward Woodley Mason.